Aujourd'hui, donc, le thème, c'est « Marche avec ton Dieu parce qu'il s'est humilié ». Dans son introduction, Roger Lefebvre, il dit « Nous avons, comme on vient de le faire encore tout au long de cette matinée jusqu'alors, l'habitude de voir Jésus-Christ dans sa peau de serviteur, dans sa peau de serviteur humilié. » On vient encore de le dire. On parle de mort et de résurrection et on utilise du pain et du vin. C'est toujours un peu l'image qu'on colle à la personne de Christ. On vient de le fêter, petit bébé, dans une petite crèche. On va suivre son parcours, marcher sur les chemins pierreux, poussiéreux, en Galilée, en Judée. On va arriver à Pâques, on va le voir encore, battu, couvert de sang, mis sur une croix. C'est toujours l'image que nous avons du Jésus serviteur. Mais Roger Lefebvre nous dit que nous avons souvent difficile à avoir une perception de la grandeur de Jésus-Christ. C'est vrai. À part cet épisode où le Seigneur s'est laissé transfigurer un moment et montrer quelque chose de différent à deux, trois personnes qui étaient avec lui, les autres, on a vu les miracles qu'il a fait. Mais c'est cette grandeur. Hein. Comment imaginer Jésus-Christ qui a des myriades d'anges sous ses ordres? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Comment imaginer Jésus-Christ au-dessus de toutes les armées célestes? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Comment imaginer Jésus-Christ qui est assis à sa place à la droite du Dieu, dans le temple du Dieu très haut, très grand? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Et pourtant, Roger Lefebvre dit, il nous reste très certainement à découvrir la puissance de l'humilité, la richesse de l'humilité. Nous qui désirons suivre le Christ, dit-il, nous qui désirons servir, nous devons accepter de le suivre sur le même chemin que le sien, c'est-à-dire le chemin de l'humilité. Nous devons découvrir que notre adoration ne doit pas servir d'abord à nous enrichir ou à enrichir notre vie, mais à nous dépouiller, à aller vers l'autre. Le texte auquel est fait référence pour justement cette journée aujourd'hui de prière, « Marche avec ton Dieu dans l'humilité », mais c'est un texte où justement est prépondérante, magistrale, l'humilité de Christ. Il se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et nous allons lire des versets 5 au verset 11. « Ayez en vous, dit le texte, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. » L'épître aux Philippiens, c'est, on peut l'appeler l'épître de la joie. Je ne sais pas si vous avez un commentaire chez vous sur l'épître aux Philippiens, mais vous allez voir que sur tous les commentaires de l'épître aux Philippiens, on met des grands titres, soyez joyeux, la joie pour vous, la joie pour toujours, toujours joyeux, ça tourne toujours autour de la joie. Hein, c'est vrai que c'est une épître qui exhorte les chrétiens à être dans la joie. Mais l'apôtre Paul n'est pas naïf. Hein, au long de cette épître, il va pointer le doigt sur un certain nombre de choses qui sont les voleurs de la joie, les casseurs de la joie, les preneurs de la joie dans ta vie. Et le texte que nous lisons maintenant s'adresse justement à un contexte où l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence qu'un preneur de joie que vous connaissez tous, que je connais bien, que tu connais Jonathan, que tu connais Élodie, que tu connais mon frère, ma sœur, que je connais, ce sont les autres. Les autres. Hein? Les philosophes ont dit ça, hein, très simplement. Hein? Sartre, il a dit, l'enfer, c'est pas tout ce qu'on dit, l'enfer, c'est les autres. J'ai lu quelqu'un qui dit, moi j'adore le monde, mais je supporte pas les gens. Tellement réaliste. Mais sans solution, il manque quelque chose. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous suggère une solution, nous propose une solution. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en général, vous n'êtes jamais pour ou contre un objectif. Vous suivez un objectif ou vous ne le suivez pas, mais vous n'êtes pas pour ou contre. Vous n'êtes pas pour ou contre un but. Vous avez un but et vous y attenez, ou vous n'avez pas de but, vous n'y attenez pas. Vous n'êtes pas pour ou contre. Mais quand il s'agit de nos relations entre nous, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Il nous faut presque maladivement mettre un rapport de force, une échelle. Et quand il s'agit de personnes, nous sommes toujours en train de nous mesurer par rapport aux autres. Et là, nous savons vraiment être contre celui-là, ou pour celui-ci, ou au-dessus de celui-là, ou en dessous de celui-là, ou mieux que celui-ci, et moins bien que celui-là. Là, c'est fou quand il s'agit de notre relation, dans l'approche avec les autres, combien c'est difficile pour nous de savoir nous situer. L'apôtre Paul, avec ce texte, nous dit, il y a une méthode, il y a une tactique, il y a une façon, il y a un truc. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Et dans le passage que nous avons lu, il va nous donner les principes du modèle de l'humilité, et un peu plus loin, il va remettre un peu les pendules à l'heure en mettant les principes de l'humilité viable pour des hommes. Il va citer l'exemple de lui-même, Paul, il va citer l'exemple de Timothée, il va citer l'exemple d'Épaphrodite, des hommes et des femmes, des personnages qui ont pu mettre en pratique les principes de l'humilité. J'ai fait comme Simon, hein, moi je ne regarde pas souvent, j'ai mon interprétation des mots et je me rends compte que souvent ce n'est pas très correct. J'ai fait comme Simon, hein, qui est le spécialiste du dictionnaire, hein, Simon. Hein, et donc, j'ai regardé dans mon dictionnaire la définition de l'humilité et j'ai remarqué que, en fait, l'humilité, c'est rien d'autre qu'une volonté. C'est une action volontaire. C'est ça qui caractérise. Quand je regarde dans le dictionnaire, c'est quoi l'humilité? Il est marqué, c'est la volonté d'être humble. Ah, ben, donc, l'humilité, c'est rien d'autre qu'une volonté, un désir de quelque chose, le désir d'être humble. Ça veut dire que c'est totalement, totalement, totalement différent de l'humiliation. Dans le texte que je vous ai lu là tout à l'heure de Roger Lefebvre, il parle d'humiliation. J'ai remplacé le mot par humilité. Parce que l'humilité, ce n'est pas la même chose que l'humiliation. Quelle est la différence? L'humilité, c'est quelque chose que je décide volontairement. L'humiliation, c'est quelque chose que je subis. Quelle est la différence entre un chrétien humble ou un chrétien paillasson? Vous allez comprendre. C'est vrai que ça peut paraître bizarre que l'apôtre Paul nous propose de régler le problème avec tous ces étrangers qui nous cassent, non les étrangers, les autres qui nous cassent le bonheur et la joie dans le cœur, en remplaçant ça par sois humble. Vous savez, bien souvent, vous êtes d'accord avec moi, rien que quand on prononce le mot humilité, combien de fois déjà dans des études bibliques, on a vu en partageant des thèmes sur l'humilité, combien les gens ont les poils qui se hérissent, des boutons partout, des réactions, ils prennent la Bible, ils l'ouvrent, mais la Bible ne dit quand même pas qu'on doit être un paillasson, qu'on doit être la poire du monde, qu'on doit être l'idiot du village. Non. La différence entre le chrétien ou l'homme paillasson Et le chrétien humble, c'est un petit peu à l'image de « t'es un paillasson sur lequel on jette toute la crasse et t'as rien à dire et rien à faire » ou bien tu es le chrétien qui voit la boue s'amener et qui dit à la personne qui arrive « attends, attends, je vais enlever la boue que tu as sur tes souliers ». Vous avez vu, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, tu choisis, de l'autre, tu subis. L'humilité est quelque chose que nous choisissons. C'est une victoire, l'humilité. Ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas quelque chose que nous subissons. L'apôtre Paul, au travers du texte que nous venons de lire, va mettre en évidence quatre composantes de l'humilité. Les trois versets que nous avons lus là mettent en évidence un, deux, trois, quatre caractéristiques de l'humilité telle qu'elle a été vécue par le Christ. On peut dire la première, le chrétien humble pense aux autres. La deuxième, le chrétien humble pense aux autres mais sert les autres. La troisième, le chrétien humble pense aux autres, sert les autres, mais il offre un sacrifice, il offre quelque chose, ça coûte quelque chose. Il pense aux autres, il sert les autres, ça coûte quelque chose. Et quatrièmement, tout ça, ça glorifie Dieu. Comme la fin du texte que nous avons lu. Jésus-Christ, tout genou fléchira, tout genou, toute langue confessera, mais pour la gloire de Dieu. C'est le point final. L'humilité, c'est ces quatre axes-là. Alors, lisons, si vous voulez bien, le premier verset qu'on a lu, c'était le verset 6. On parle donc de l'humilité de Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Hein, c'est de ce que parlait Roger Lefebvre. On a très peu de vision de la gloire de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on en sait? Il était là, il est venu, il est venu, et il a laissé tout ça de côté. Il n'y avait rien avec lui pour montrer cette gloire céleste. Rien. Tous ces privilèges-là, il les a laissés de côté. Pourquoi? Pour utiliser ces privilèges au service des hommes. C'était ça, en fait. Laisser la gloire céleste pour venir comme Dieu ici, dans la peau d'un homme, pour mourir comme un homme et ressusciter comme Dieu pour sauver les hommes. Mettre sa gloire céleste au service des autres. Regarder les autres. Vous savez, j'ai vu dans un manuel de management, on écrivait que pour évaluer qui est un bon manager, il faut non pas donner des responsabilités aux gens, mais il faut leur donner des privilèges. Plein de privilèges. Et puis alors, il faut regarder. Qu'est-ce qu'ils font avec les privilèges? Ils les gardent pour eux? Ils en tirent profit pour eux? Ils les centrent vers eux? Ou bien ils prennent ces privilèges pour les mettre au service des autres, pour que l'entreprise prolifère et fonctionne convenablement. Un ami qui me racontait l'autre jour, son fils qui travaille en Côte d'Ivoire, qui est responsable d'une usine de latex, était rentré, il est tout jeune, il a 25 ans, il me disait, mon fils m'épate, il m'épate. Il aime beaucoup son fils, hein, et c'est bien, c'est vrai, on a vu nos fils qui nous épatent. Mais il me disait, mon fils m'épate. Il est parvenu, avec les avantages qu'on lui a donnés, à utiliser tout ça pour sensibiliser les ouvriers à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, pour qu'il y ait une continuité dans la chaîne de production, et le chiffre de production a explosé. Et maintenant, il a exigé de son patron que chaque ouvrier ait une prime de 10% de son salaire annuel, tant la production a été progressée. C'est comme ça qu'on doit travailler dans l'Église, et c'est comme ça qu'on doit travailler dans le monde. Tous les privilèges qu'on a, on doit les mettre au service des autres pour que ça prolifère, pour que ça grandisse, pour que ça prospère. Question. Qu'est-ce que je fais de tes capacités, de tes dons, de tes avantages, de tes privilèges, de tes ministères? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'ils te servent juste à construire une échelle de valeur pour pouvoir dire, moi, là, je suis quand même bien par rapport aux autres. Hein. J'ai remarqué que le mot le plus important en ce qui concerne l'humilité, le mot le plus important du vocabulaire du chrétien humble, c'est les autres. Les autres. Pas moi, les autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans la même épître, hein, quelque part, il dit « Christ d'abord, les autres ensuite ». Et il n'ajoute pas « et moi le dernier hein ». Il ne pense même pas à lui. Il dit « Christ d'abord, les autres ensuite ». Pas une question de se mettre le dernier des derniers. Non, Christ d'abord, les autres ensuite. Le mot principal du vocabulaire du chrétien humble, c'est les autres. Moi, je me souviens, à un moment, j'ai fait toute une série de prédications sur les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, confessez-vous les uns les autres, etc. Je crois qu'il y en a une vingtaine comme ça, dans le livre de Kuhn. Les autres. Le mot principal du chrétien humble. Qu'est-ce que je fais de mes capacités, de mes compétences pour les autres? Deuxième, regarder les autres, être attentif aux autres. Deuxième caractéristique, servir les autres. Verset 7 de la lecture que nous avions là tout de suite. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est clair. Devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé pour devenir serviteur. Servir. Il ne suffit pas de penser aux autres. Moi, j'ai facile de penser aux autres. Je pense beaucoup aux autres, mais j'ai assez facile de faire ça. Tant que ça reste dans l'abstrait, tant que ça reste dans ma pensée, dans mes projets hypothétiques, là, c'est facile. Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire certains livres sur l'éducation qu'il a écrit, c'est unique, extraordinaire. Des principes d'éducation pour élever un enfant dans l'amour, faire grandir son âme spirituellement, intellectuellement, extraordinaire. Mais quand on lit la bibliographie de Jean-Jacques Rousseau, on voit que malheureusement il a abandonné tous ses enfants. Facile de rester dans l'abstrait. L'humilité, ça passe par servir. Question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais pour servir quelqu'un autour de toi, ici, dans l'église? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais pour servir quelqu'un en dehors de l'église? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Oh, ou pas? Des choses comme ça, hein? On l'a rappelé encore ce matin. On l'a rappelé. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? En même temps, quelque chose bien sûr d'extraordinaire par rapport à la situation. Lui, le Créateur de toutes choses, qui lave les pieds de ses disciples. Bien sûr, extraordinaire. Mais en soi. Qu'est-ce que c'est laver les pieds de quelqu'un finalement? Dans le texte qu'on a lu, je ne sais plus si on l'a lu là tantôt, dans le texte où on parle de ça en tout cas, un petit peu plus loin, deux versets plus loin, Jésus va laver les pieds de Judas, et je crois deux versets plus loin, il dit, maintenant je connais, vous allez connaître celui dont le talon va se lever contre moi, hein, quelque chose comme ça. Donc, Jésus lave les pieds de Judas. Et à peine une phrase plus loin, il dit, ce pied qu'il a lavé le talon, et pas seulement le talon, mais les deux pieds ensemble, il dit, c'est celui-là qui va me trahir pour que s'accomplisse l'Écriture. Servir. Troisième axe, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Offrir un sacrifice. L'humilité passe par offrir quelque chose. Toujours. Bon, bien sûr, ici, il n'est pas question de faire un comparatif avec la dimension de ce que Jésus a fait et de ce que nous pouvons faire. Il n'est pas question de dire, Jésus a offert sa vie, nous on offre ça, on offre notre vie, le sacrifice, comme ça, sacrifice. Non. L'importance est mise sur le mot offrir. offrir un sacrifice. Pas l'ampleur et la dimension du sacrifice. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de sacrifice comparable à celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. Bien sûr qu'il n'y en a pas. Mais offrir. Question. Que me coûte ma foi? Que me coûte ma foi? Moi j'ai ici quelque part, je la pense que je viens de la remettre, j'ai ici quelque part une petite croix ici, une petite croix en acier, elle vaut rien. Hein, c'est un signe d'appartenance à ma chrétienté. Une petite croix qui vaut rien. Que me coûte ma foi? Cette petite croix qui vaut rien. À la maison, j'ai quelques vieilles Bibles, j'en ai une de 1706. Deux grands volumes comme ça, il est écrit dedans en français qu'on ne comprend rien, il est écrit « En remerciement à mon Père pour ce fabuleux héritage qu'il m'a laissé. » Et c'est signé avec la date 1706, machin. Fabuleux héritage, oui, fabuleux héritage. Héritage spirituel qui lui a été laissé en 1706, cet homme-là. Et héritage financier, parce qu'en 1706, cette Bible-là, ça valait plus que tout un immeuble. Que me coûte ma foi? Est-ce que ta foi te coûte quelque chose? Difficile, hein, de parler de tout ça. Difficile, hein, parce que hein, c'est simple d'être là ici et de dire toutes ces choses. Hein. Mais je crois que ma femme pourrait me dire, j'espère que tu prends l'enregistrement, que tu rentres à la maison, que tu l'écoutes bien avec moi et que tu me montres comment tu le mets en pratique. Hein. Facile de parler de tout ça, hein. Que me coûte ma foi? Oh, que me coûte ma foi? Que vous coûte votre foi? Offrir un sacrifice. Offrir, c'est quelque chose qu'on fait délibérément. C'est pas quelque chose qu'on donne parce qu'on nous y oblige, parce qu'on nous y force, parce qu'on nous y contraint. C'est quelque chose qu'on fait de bon cœur. Christ n'est pas mort en martyr. Il a donné sa vie. C'est pas du tout la même chose. Christ, on ne lui a pas enlevé sa vie, il a donné sa vie. Offrir, c'est comme ça, il n'y a personne qui vous prend rien, c'est vous qui donnez. C'est ça, offrir. Et ça se fait dans une dimension de joie, parce que, je ne sais pas si tu as ce texte-là en hébreu 12, finalement, Richard, parce qu'on était un peu... Regardez, dans la deuxième partie de là, donc on nous parle de notre manière de nous conduire, mais c'est surtout sur le deuxième verset que je veux attirer notre attention en disant, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et, offrir le sacrifice pour le Christ, même si ce cantique, ce chant extraordinaire que nous a chanté Élodie ce matin, met en évidence combien Christ a souffert à ce moment-là, évidemment. Mais la perspective, c'était la joie qui lui était réservée après. Offrir, donner, se fait dans la perspective de ce qui nous est offert après, de ce qui nous est donné après. Est-ce que cela me coûte quelque chose d'être chrétien? Quatrième axe. M'intéresser aux autres, servir l'autre, offrir un sacrifice, glorifier Dieu. Glorifier Dieu. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mais c'est surtout la deuxième partie qui m'intéresse, où il était indiqué, ce verset 9, 10, 11 en fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 11, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père. Paul nous met en garde contre une gloire qui est une gloire vaine, une vaine gloire. Et il n'y a qu'une seule gloire qui compte, c'est celle où Dieu est glorifié. Vous vous souvenez dans le sermon sur la montagne, j'ai pas pris le passage, mais vous vous souvenez de ça, on a évoqué ça aussi, quelqu'un a évoqué à travers la bougie tout à l'heure. Le Seigneur dit, vous êtes lumière du monde, ainsi vous éclairez tout autour de vous. Et il dit, vous faites ça en montrant vos bonnes œuvres, afin que le Père céleste soit glorifié. Moi, j'ai à la maison, j'ai une lampe, comme c'est une grosse lampe dans le salon que j'aime beaucoup. Je la trouve très belle, c'est une artiste qui l'a faite, elle est en vert, elle est toute irisée de couleurs, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique quand il fait clair, elle est magnifique aussi quand elle est éclairée par l'ampoule qu'elle porte. Mais vous savez, quand même, quand je suis dans le living le soir et que je vois rien, hein, et qu'en tâtonnant, j'allume l'interrupteur, je mets l'interrupteur, hein. L'intérêt de la lampe, hein, c'est quand même qu'elle éclaire la pièce et qu'elle me permette d'aller là où je dois aller sans trébucher ni sans renverser quelque chose. C'est quand même l'intérêt. Même si elle est magnifique, si elle est extraordinaire, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la lampe, elle est là pour éclairer. Et c'est exactement la même chose ici. Le but final de ce que nous faisons, c'est pas que ça nous rapporte quelque chose à nous, c'est glorifier notre Père qui est aux cieux. Alors c'est vrai que quand on lit ça comme ça, on met la barre haut. Moi-même, quand je dis toutes ces choses-là, je me dis, à quoi bon continuer, hein? Est-ce que ça vaut la peine encore que je revienne encore une fois? Est-ce que c'est encore possible pour moi de tenter le chemin de l'humilité? Est-ce que c'est encore possible pour moi de faire que les autres ne me prennent plus ma joie parce que je choisis l'humilité? Est-ce que c'est encore possible? C'est vrai qu'avec le témoignage du Christ, on met la barre très haut. Ok. Mais un peu plus loin, dans le même texte, l'apôtre Paul cite des exemples précis. Regardez dans Philippiens 2, même chapitre, on va lire des versets 17 à 30, sans insister, simplement évoquer des hommes humbles qui ont connu la joie de l'humilité. Regardez l'apôtre Paul, versets 17 et verset 18. Et même si je sers de libation, une libation, c'est quand même ce qu'on jette sur l'autel et qu'on sacrifie. Hein? Donc même si je sers de sacrifice, et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis avec vous tous. Et vous aussi, réjouissez-vous de même? Réjouissez-vous, vous, avec moi? Alors, en fait, il dit, même si je sers de sacrifice, hein, si je sers de libation, eh bien, ça me réjouit. Et réjouissez-vous avec moi. Quel rafraîchissement, j'ai envie de dire, pour la vie chrétienne, pour le ministère chrétien, pour la marche chrétienne. Même si je suis un sacrifice pour quelque chose, eh bien, je m'en réjouis, et vous aussi, réjouissez-vous avec moi. Allez, qu'on se réjouisse tous ensemble. C'est faisable. Paul a vécu ça, c'est faisable. Et il se réjouissait, donc ça marche. Regardez, le texte continue. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai une issue dans l'état où je suis. Vous avez vu? Tous les gens qui étaient autour de l'apôtre Paul, c'était ses amis, hein. Il dit, Timothée est le seul à prendre à cœur votre communauté. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non pas les intérêts de Jésus-Christ. Croire que tout allait bien, que tout était rose, mon œil, hein. Il écrit que tous ceux qui sont avec lui ne s'occupent que de leur intérêt, ils s'en foutent de l'église de Philippe. Et Timothée est le seul qui l'a à cœur, est le seul qui va partir, est le seul qui va être envoyé dès que les circonstances le permettront. C'est faisable de marcher sur cette voie-là. Il continue dans le texte. J'ai estimé nécessaire, au verset 25, de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été en effet très malade et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas la tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Voilà, regardez de quoi on parle. On parle de quelqu'un qui est presque mort, on parle de quelqu'un qu'on ne sait pas comment il a survécu, et tout ça est un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que cet homme a déjà ramené de l'église de Philippe une grosse somme d'argent qui était destinée aux communautés là où se trouvait Paul, et que Paul lui en est très reconnaissant, et que maintenant cet homme veut partager sa joie d'avoir été guéri avec ses frères et sœurs de l'église de Philippe qu'il a connus là-bas auparavant. C'est possible, cette marche-là. C'est possible. On n'est plus là dans la dimension du Christ qui a quitté le ciel, qui a donné sa vie. On est dans la dimension des hommes. C'est possible de marcher comme ces hommes, ces témoins du Christ. En conclusion, je pense que ce matin, nous devons partir avec cette assurance, cette conviction que c'est possible, Jonathan, Elodie, je ne sais plus qui j'avais cité, tout le monde qui sont là, c'est possible que les autres ne prennent plus notre joie. C'est possible. Mais la solution n'est pas dans le changement de l'autre. Souvent, c'est ça, hein. Moi, il s'est passé ça. Il faut aller le voir. Il faut parler avec lui. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Non. La solution n'est pas dans le changement de l'autre. Même si il faut des interventions, hein, bien sûr, c'est clair. Mais la solution pour toi, pour que les autres ne prennent pas ta joie, c'est de ne pas croire que l'autre va changer. Pas ça. Non. Ça dépend de toi. La solution, elle est de ton côté. Comment cultiver ma joie en glorifiant Dieu par mon service de l'autre en toute humilité? Tout un programme, n'est-ce pas? Pas accepter ces vérités ce matin encore? Ou bien, on les accepte, on les saisit, on fait de nouveau demi-tour, en se disant, allez, je marche vers l'autre. Je marche vers l'autre. C'est la question que je nous laisse à tous ce matin. Et n'oubliez pas, si vous avez l'occasion tout à l'heure, regardez sur votre PC, voyez les sujets de prière. On nous demande de prier pour que le Seigneur nous aide à être des serviteurs humbles. Il y a quelques sujets de prière qui sont là cités. Je vous invite vraiment. Retrouvez-vous là, sur la page de l'association pour la semaine universelle de prière et priez selon les thèmes qui sont proposés là pour aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de prière, à simplement vous rappeler, je pense peut-être, vous savez qu'aujourd'hui c'est une très grande manifestation en France en ce qui concerne le mariage, la filiation des homosexuels. Et vous savez qu'il y a en France un projet qui s'appelle Opération Josué. Et là aussi, c'est une opération qui est une opération de prière. Elle fait référence à ce combat de Josué, et où Moïse était là sur la montagne et où il tenait le bâton de Dieu, et où il y avait les deux autres qui devaient tenir ses bras pour que toute la journée, dans la prière, on puisse combattre. Et c'est ce qui a donné la victoire à Josué. Donc c'est pour ça que ce thème est choisi. Et là aussi, je laisserai sur les tables là-bas derrière, nous sommes invités aujourd'hui à prier pour d'abord l'intérêt de tout ce qui se passe, c'est le fait qu'on parle de ces sujets-là, alors qu'on n'en parlait peut-être pas nécessairement. Le fait que ce soit une manifestation qui doit se dérouler dans l'ordre, le fait que tout le lobby homosexuel qui va mettre tout en œuvre pour se faire remarquer, se manifester, puisse être vraiment contrôlé. Vous verrez, je laisse là, c'est aussi une occasion, aujourd'hui en tout cas, en cette journée particulière, de prier pour ce qui se passe là-bas en France, avec ces centres, je pense qu'on attend en tout cas des dizaines de milliers de manifestants. Alors, que le Seigneur vraiment nous aide à aller à la rencontre de l'autre, dans l'humilité, non par la force, mais simplement parce que c'est notre désir et que nous voyons cette perspective de la joie qui s'y trouve pour glorifier notre Dieu. Amen.